Voilà, bonjour. Je pense qu'il y en a parmi vous qui se sont levés tôt ce matin pour être là à 10 heures, et je les en félicite. Donc, vous vous êtes inscrits à ce cours d'initiation qui va être consacré aux psaumes. Et je pense que vous avez tous lu la petite notice que j'ai faite à cette intention-là, puisque nous allons faire ce cours jusqu'au 23 janvier. Il faut qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on va faire. Et en très gros, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'essentiel du cours ne sera pas un discours sur les psaumes. Ça, vous trouveriez à la procure une vingtaine de livres qui ont moins de 20 ans et qui vous racontent ce qu'on peut dire sur les psaumes. Donc, je n'ai pas à faire ce travail-là. Il y en a de très bien, j'en ai un là de très bien d'un ami, comme une nourriture, comme un murmure de cithare, introduction au psaume par Mathieu Collin de La Pierre qui vire. C'est remarquable, bon. Il n'y a pas besoin de refaire ce travail-là, même si dans la dédicace qu'il me fait, il me dit que j'aurais fait mieux que lui ce truc-là, mais c'est tout à fait, c'est quelque chose qui n'est pas trop difficile à faire. Ce que je vous proposerai, moi, c'est davantage une lecture de psaumes, c'est-à-dire on va lire des psaumes ensemble, pour que vous appreniez à pouvoir les lire tout seul, parce que tout seul, c'est un peu rébarbatif. Et puis, je dirais, il faut un certain nombre de tours de main, de techniques, pour pouvoir entrer dans ce texte des psaumes, qui, somme toute, est assez compliqué parfois. Et donc, le cours sera simplement une aide à vous aider, au fond, à lire les psaumes, comment les lire. Et c'est pour ça que le titre d'un livre que j'avais écrit avec Jean-Noël Aletti s'intitulait Approche poétique et théologique des psaumes, c'est-à-dire que là, nous n'avons pas de la théologie narrative, nous n'avons pas de la théologie spéculative, mais nous avons une théologie poétique. Pour une fois qu'on nous présente de la théologie sous forme de poème, eh bien, il faut en profiter. Seulement, la difficulté, c'est qu'on n'étudie pas des poèmes comme des récits, comme des discours, ou comme des thèses de théologie, ça s'étudie autrement. Et donc, le cours va essayer de vous aider à entrer dans des textes qui sont poétiques et hautement poétiques, souvent, et en même temps qui sont porteurs d'une théologie extrêmement puissante. La difficulté que nous aurons, c'est que la théologie dont ils sont porteurs n'est pas forcément celle que vous avez dans la tête, et la poétique hébraïque n'a rien à voir avec la poétique occidentale, hein, même s'il y a des points communs entre toutes les poétiques du monde, mais il y a quelque chose de spécifique à l'hébreu et aux langues sémitiques. Alors ne vous inquiétez pas, tout ça on le fera au fur et à mesure, et je pars du principe que vous ne savez rien de toutes ces choses-là. On est bien d'accord. Voilà, vous êtes supposé ne rien savoir et je suis supposé un petit peu vous initier à tout ça. Donc j'essaierai d'être le plus pédagogue possible et si à un moment donné vous n'arrivez pas à suivre ce que je raconte ou qu'il y a des mots un peu compliqués, n'hésitez pas à lever la main pour dire que veulent dire ces mots comme on disait dans l'ancien catéchisme. Voilà, donc j'espère que ce sera assez vite. Pas forcément aujourd'hui ni la prochaine fois, mais interactif entre nous, c'est-à-dire qu'au fond, vous allez m'apprendre des choses. Progressivement, moi j'aime bien faire cours, ou j'aime bien enseigner les psaumes, parce que je les étudie quand même depuis plus de 30 ou 40 ans, mais à chaque fois que je fais un cours, il y a toujours un étudiant qui trouve quelque chose que je n'avais jamais trouvé. Et ça, c'est formidable. Donc ça donne envie d'aller se recycler à chaque fois qu'on vient faire un cours. Alors aujourd'hui, la leçon va être complètement différente des autres. En gros, si vous voulez, les leçons habituelles, je vous donnerai une fiche de travail pour préparer ce que je ferai pendant le cours suivant, et qui est l'étude d'un psaume. Alors on va commencer avec un, peut-être qu'avec 2 heures, on arrivera à en faire 2 ou 3 à la fin. Ça va s'accélérer progressivement. Au démarrage, il vaut mieux aller un peu lentement. Et je choisis pas au hasard mes psaumes dans l'ordre dans lequel je les fais. Je prends d'une certaine façon ce qui est le plus abordable. Mais par certains côtés, il n'y a pas de psaume très facile. Ils sont tous un peu complexes. Mais enfin, il y en a qui sont plus rébarbatifs que d'autres. Les plus difficiles sont souvent les plus courts. C'est pas forcément un psaume très long, n'est pas forcément difficile. Ça paraît comme ça un peu embarrassant. Mais en fait, c'est quelquefois plus facile qu'un psaume qui serait d'une très très grande brièveté. Par exemple, le psaume le plus court, « Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays, fort est son amour pour nous, pour toujours sa vérité », un psaume ultra difficile. Et il fait 4 lignes. Bon. Ou bien « Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'habiter ensemble, c'est comme une huile qui coule sur la barbe d'Aaron », etc. Psaume assez compliqué. Voilà. Alors, en gros, toutes les leçons seront l'étude d'un ou plusieurs psaumes, mais la leçon d'aujourd'hui et une autre leçon qui viendra probablement après l'étude d'un psaume. Je crois que c'est mieux de décaler, de ne pas faire 2 leçons de suite qui sont un petit peu générales ou théoriques. Je vous ferai donc une leçon qui sera, aujourd'hui ça va être de vous dire un peu quel est l'intérêt d'étudier le psautier, et puis la prochaine fois on étudiera un psaume, et la fois suivante je vous parlerai de la poétique hébraïque, comment ça fonctionne et comment ça marche. Donc ce sera un petit peu plus, disons, des outils que je vais vous donner pour pouvoir étudier les psaumes par vous-même. Alors aujourd'hui, je vais faire un cours en 3 temps, 3 parties. Vous voyez, je suis très sérieux. On demande en général que les dissertations fassent 3 parties. Là, je vais me soumettre à ce critère. Quitte à répondre à des questions à la fin, ou en cours de route, des petites questions techniques qui peuvent se poser pour aborder le psaume, puis dans quelle traduction, etc., ou... Le problème des numéros est un problème compliqué. Ça va être un petit peu une leçon un peu à 3 pieds. La première partie, ça va être de vous montrer que le psautier n'est pas un livre comme les autres, mais c'est un résumé de toute la Bible. Première partie, donc, la Bible comme résumé, ou digest, pour parler un peu anglais, de toute la Bible. Ce sera la première partie. La seconde partie, que j'ai un peu essayé de retravailler pour ce cours, enfin de, même si j'ai fait une année entière de séminaire là-dessus, ce sera le rapport des psaumes au Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le langage du Nouveau Testament ou la manière dont ils ont élaboré leur christologie, c'est-à-dire leur manière de parler du Christ, est très liée à des emprunts faits aux psaumes. Les psaumes étaient le langage par excellence qui permettait de parler du mystère du Christ et de la radicale nouveauté de ce qu'il était venu faire. Ce sera la seconde partie. Et la troisième partie, ce sera, si vous voulez, le psautier comme école de prière, c'est-à-dire nous prions avec les psaumes, mais au fond, quelle est la prière qui nous est proposée à travers les psaumes, les modèles, et pourquoi faut-il des modèles pour prier? Donc ce sera un petit peu autour de ces 3 thèmes-là que je vais plancher ce matin. Voilà, ça va. Donc 3 parties, une sur le rapport du psautier à l'ensemble de la Bible, la seconde sur le psautier et le Nouveau Testament, et la troisième, le psautier école de prière. Ça m'amènera probablement à parler des psaumes et de la liturgie. Aussi. Première partie, donc, les psaumes digestes de toute la Bible. La Bible, si on prend les grandes catégories bibliques, on peut dire que c'est majoritairement des récits ou des oracles prophétiques, voire de temps en temps des corpus de loi. Vous avez des livres entiers qui sont des corpus de loi comme le Lévitique. Et puis, vous avez aussi des corpus qui sont des sentences des sages, des proverbes, des réflexions sur le sens de l'existence, comme Coëlette. Mais je dirais que dans l'ensemble, même si on peut dire que l'ensemble de la Bible, dans ses parties narratives, est foncièrement poétique. Même dans les proverbes, il y a des poèmes, et même chez les prophètes, il y a aussi des poèmes. Mais le psautier, lui, est foncièrement poétique et n'a rien de narratif. C'est-à-dire, il ne raconte pas une histoire. Il ne raconte pas une histoire. Par certains côtés, vous avez l'impression, en lisant les psaumes, que vous n'apprenez rien de ce que vous auriez appris en lisant le récit des patriarches, l'Exode, le retour d'exil. Bon, les psaumes font allusion un petit peu à tout ça. Et on a l'impression, en lisant les psaumes, d'être en terrain connu. Ça parle de choses dont on a entendu parler ailleurs et plus amplement. La traversée de la mer Rouge, par exemple. Je dirais que, fondamentalement, le psautier, à la limite, ne prétend pas apporter une nouveauté au niveau des contenus, mais au contraire, à les synthétiser, à les reprendre et à les reprendre en langage poétique. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas aborder le psautier comme un autre livre, puisqu'il se présente avant tout comme un résumé, une récapitulation de ce qu'on trouve ailleurs. Les pères de l'Église ont très vite senti cette dimension du psautier comme récapitulatrice de l'Ancien Testament. Et vous avez un texte que je voudrais vous citer qui est absolument merveilleux et qui m'a pas mal inspiré, un texte qui n'est pas traduit malheureusement dans Source chrétienne encore. C'est une lettre de saint Athanase, donc le grand architecte du concile de Nicée. Athanase, qui est aussi un évêque, évêque d'Alexandrie, mais qui a été aussi un moine, et qui répond à un moine qui avait dû lui demander comment lire les psaumes. Alors il lui fait une lettre un petit peu, une lettre qui est plutôt un discours, et dont le sous-titre est « Lettre à Marcellin », donc c'est le nom du moine auquel il écrit, et le sous-titre est « Pour l'interprétation des psaumes ». Et au fond, si tu veux lire les psaumes, voilà un peu une méthode que je te propose. Et saint Athanase, dans ce petit recueil, écrit ceci à son moine, Marcellin, pour lui dire que, en fait, en ouvrant le psautier, il va ouvrir tout l'Ancien Testament, comme un fil qu'on tire, et tout l'Ancien Testament arrive. « Toutes nos écritures, ô mon fils, dans celles de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, sont divinement inspirées et utile à notre instruction, comme il est écrit en 2 Timothée 3,16. Toute écriture est utile à notre instruction. Mais le livre des psaumes comporte quelques singularités pour qui veut y prêter attention. Chaque livre de l'écriture, en effet, nous transmet, nous explique un message particulier. Ainsi, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, traitent de l'origine du monde, de la geste des patriarches, de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël et du don de la loi par Dieu. C'est un assez bon résumé. Le Triteuque, c'est-à-dire les 3 livres qui suivent, le livre de Josué, le livre des Juges et les livres de Samuel, raconte le partage des terres par la voie du sort, la geste des juges et la généalogie de David, Quant au livre des rois et des chroniques, il rapporte l'histoire des rois, celui d'Esdras, la fin de la captivité, le retour du peuple et la reconstruction du temple et de la ville. Ça continue donc à bien résumer l'Ancien Testament. Les prophètes annoncent l'avènement du Sauveur, adressent des avertissements sur l'observation des commandements et des blâmes contre les pécheurs et des prophéties sur les nations. Là aussi un excellent résumé de ce qu'est le prophétisme. Mais le livre des psaumes. Alors une phrase presque intraduisible. Concentre en lui tel un jardin. Et un jardin en grec, ça se dit paradeisos, le paradis. Tel un jardin. Concentre en lui tous les trésors des autres livres auxquels il joint un charme supplémentaire qui lui est propre, à savoir le chant. C'est-à-dire qu'au fond, toute la Bible m'est chantée, ou si vous voulez, poétiquement présentée en chanson. Athanase va donc développer avec bonheur cette théorie qu'il vient d'énoncer, et montrer comment les grands événements de l'Ancien Testament sont évoqués dans les psaumes. Alors il part à la pêche, si je puis dire, pour essayer de retrouver un petit peu les traces de l'histoire d'Israël dans le psautier. Alors je vais faire deux parties. La première, c'est les psaumes et l'histoire. Et la deuxième, les psaumes et la théologie de l'Ancien Testament. On pourrait, et l'expérience a été tentée, évoquer l'histoire de France ou des pays desquels vous êtes. Je pense qu'il n'y a pas que des Français. Hein. Mais ça a dû être pour l'histoire de France, en tout cas, ça a été fait, avec des chansons. Hein. Moi, j'ai un petit livre dans la bibliothèque de la rue de Grenelle, là où je suis maintenant, qui est une histoire en 4 volumes, les chansons à toutes les périodes un peu fondatrices de la France. Il y en a que vous connaissez, je vais en évoquer quelques-unes, et d'autres que je ne connais pas du tout, parce qu'on ne me les a pas fait chanter à l'école. Prenez par exemple un chant qu'on apprend au jardin d'enfants, mais qui n'est pas tellement un chant pour le jardin d'enfants. Auprès de ma blonde, il fait bon dormir. Auprès de ma blonde, il fait bon dormir. Bon, vous avez tous chanté ça si vous étiez en France. Vous avez peut-être chanté également le temps des cerises. Quand nous chanterons le temps des cerises, etc. Bon, le rossignol. Vous avez peut-être moins chanté ça ira, les aristocrates, on les pendra, je veux dire, on est davantage dans la Révolution. Et puis, éventuellement, nous irons pendre notre linge sur la ligne Siegfried. La ligne Siegfried, c'est pendant la guerre de 40, entre 30 et 40. Les Allemands ont construit une ligne imprenable, comme les Français avaient construit une ligne imprenable qui s'appelait Maginot. On a vu le temps que ça a dû... Enfin, les Allemands ne se sont pas cassés la tête, ils ont contourné l'obstacle. Et la ligne Siegfried, c'est l'équivalent allemande, hein, de l'autre côté. Ils étaient repartis pour faire une guerre de tranchées, quoi, en 1940. Vous avez peut-être chanté aussi « Nuit et brouillard », hein, de Jean Ferrat. Or, la plupart de ces chants sont souvent contemporains de l'événement qu'ils évoquent, et en général... Il ne raconte pas toute l'histoire, simplement à travers quelques touches, à travers quelques allusions, ils évoquent un petit peu ce qui s'est passé. Et si vous reprenez par exemple la chanson « Auprès de ma blonde, il fait bon dormir », si vous êtes un peu musicologue, à travers la mélodie, vous allez découvrir que c'est une chanson qui est plutôt... du XVIIe siècle, bon, mais au détour d'une phrase, vous allez avoir ce vers. Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. C'est pour ça d'ailleurs que, eh bien, il chante qu'auprès de sa blonde, il ferait mieux de dormir plutôt que d'être en Hollande. Les Hollandais l'ont pris, les prisonniers des Hollandais. Ah, ça donne un indice au fond. qui m'indique que ce champ-là peut remonter à une période où la France et la Hollande et les Pays-Bas étaient en guerre. Et effectivement, je vais rechercher dans mon histoire de France et je vais constater que sous Louis XIV, eh bien, entre 1672 et 1678, effectivement, il y a eu cette fameuse guerre avec la Hollande. Mais vous voyez, dans mon champ, je n'ai qu'un élément parmi d'autres pour retrouver la trace, disons, historique du chant. Chanson anodine, mais en même temps, chanson qui dit quelque chose de la situation historique et dramatique qu'on pouvait connaître à ce moment-là. On pourrait faire d'une certaine façon la même chose avec les psaumes, mais on va avoir quelques déceptions, parce que les allusions aux événements d'Israël, bon, ça peut être des allusions à des événements qui sont suffisamment significatifs et bien connus par la Bible, et on va pouvoir les identifier à travers une allusion. Exemple, au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Tout le monde sait qu'il y a eu un exil. Vous ne savez peut-être pas combien de temps il a duré, mais il y a eu un exil auprès de Babylone de 586 à 536. Ça ne fait pas tout à fait 40 ans ni 70 ans, hein, comme on le dit. Donc il y a un exil au bord des fleuves de Babylone. Quand Israël sortit d'Égypte et Jacob de chez un peuple barbare, sorti d'Égypte, ça me rappelle les choses. Effectivement, la Bible me dit quelque chose d'une sortie d'Égypte, l'Exode. D'autres textes vont faire allusion à d'autres événements, mais là, plus difficiles à dater. Par exemple, on va vous raconter au psaume 45, le mariage d'un roi avec une princesse étrangère, où on dit qu'il est magnifique et elle est encore plus beau que lui, etc. Bon, elle aura de beaux enfants, enfin, voyez, on leur souhaite plein de bonnes choses le jour du mariage. De quel roi s'agit-il? La Bible est un peu... pas grand-chose. Et ce qui fait que les exégètes ont de la pâture, parce qu'ils vont essayer de dater ça en disant « c'est probablement de Salomon qu'il s'agit, c'était peut-être le mariage de David, c'est peut-être le mariage de Josias ou d'Ézéchias ». Vous voyez, comme quoi on peut y aller gaillardement, puisqu'on n'a aucune preuve possible de pouvoir attribuer ce psaume-là à un mariage quelconque princier. Ça donc, sur le plan de l'histoire, les allusions sont quelquefois difficiles à repérer et c'est ce qui explique la difficulté de mettre en œuvre ce qu'Athanase pourtant nous avait mis en goût de faire, retrouver l'histoire dans l'Ancien Testament. J'avais demandé il y a quelques années à une étudiante d'étudier toutes les allusions à l'Exode dans le psautier. Elle s'était amusée à prendre toutes les allusions à l'Exode. Alors, elle a récolté pas mal de textes, et puis à un moment donné, elle s'est trouvée confrontée à une difficulté que j'avais prévue, qui est que, à certains moments, on ne sait pas si ça parle de l'Exode ou de la création du monde. Parce que les Israélites, en quelque sorte, tout ce qui concernait la création, les mythes de création, c'est-à-dire le début, le commencement des choses, ou la fin des choses, sont des problèmes qu'ils ont un peu relégués très tardivement dans leur propre théologie. Et par certains côtés, tout ce que les Babyloniens, voire les Égyptiens, mettaient sur les mythes de création, à la fois de violence, de combat, d'eau qui submerge la terre, etc., eh bien les Israélites, en quelque sorte, l'ont réinjecté dans les récits de l'Exode, et à certains moments donnés, on ne sait plus s'il s'agit d'un mythe de création ou s'il s'agit d'un récit de l'Exode avec une amplification en quelque sorte historique et mythologique. C'est un événement tellement important qu'on va finir par se demander si finalement ce n'est pas aussi important que la création, l'Exode. alors que l'Exode en lui-même a dû être un petit événement minime, comme la prise de la Bastille en 1789, où c'est une bande de types complètement bourrés, entre guillemets, qui sont allés prendre d'assaut la Bastille, qui ont cassé la figure aux gardes, et puis qui ont blessé ou tué quelqu'un, ils sont revenus arroser l'événement au bistrot d'à côté. Bon. Dixit Chateaubriand, dans les mémoires d'Outre-Tombe, et il dit voilà, voilà ce qu'a été la prise de la Bastille, sur le plan du fait historique. Maintenant, page de droite des mémoires d'Outre-Tombe, ah oui, mais attention, cet événement-là a été compris comme un événement fondateur de la nouvelle France, entre guillemets, puisqu'il faisait passer d'un ancien régime à un nouveau régime, c'est-à-dire un nouveau statut du peuple par rapport au roi, etc. Et donc la prise de la Bastille comme événement, c'est pas grand-chose, mais comme événement historique, alors effectivement, ça a marqué et c'est un petit peu la référence fondatrice de notre République. Donc, je dirais que l'événement de l'Exode tel qu'il est raconté dans le livre de l'Exode et dans le Deutéronome où il est repris, et tel qu'il est repris dans les psaumes, il y a toujours une amplification où on a projeté là-dessus ce que les grands mythes de création du Proche-Orient mettaient dans les mythes de création de l'univers. Donc difficile de démêler si on est en présence d'un texte qui parle de l'Exode ou d'un texte qui parle de la création du monde. Pour ce qui est de la théologie, deuxième partie, pour ce qui est de la théologie, il y a un travail qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'essayer de repérer dans le psautier des grandes idées ou des grands thèmes théologiques du genre l'image de Dieu dans le psautier. Si vous faites ça, c'est du temps perdu. Pourquoi ? Parce que le psautier, en gros, s'étend sur une durée de plus de 1000 ans. Ça dure plus de 1000 ans, le psautier. Entre les plus anciens chants et les plus récents, il y a à peu près un millénaire qui va s'écouler. Il est bien clair que la théologie au cours de ce millénaire a énormément évolué. C'est-à-dire que, si je prends une comparaison, les cantiques qu'on vous fait chanter à l'Église aujourd'hui après Vatican II ne sont pas tout à fait ceux que vous chantiez avant. Avant Vatican II, vous avez dû chanter des cantiques du genre « Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien ». Aujourd'hui, il faut vraiment aller près de Saint-Nicolas du Chardonnay pour écouter ça. Bon, ils sont tous très beaux, ces cantiques antérieurs à Vatican II, parce que c'est des airs de valse. Et que la valse, ça prend beaucoup mieux que le rock, entre parenthèses. Bon. On aura l'occasion d'y revenir. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien. Bon. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Alors ça a traversé Ça a traversé, si je puis dire, Vatican II, puisqu'on l'entend encore dans les églises. Mais je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme, je veux la préserver. Ça, aujourd'hui, je n'entends plus beaucoup dans les églises. Bon, j'entends plutôt des choses assez différentes. Entre parenthèses, quand je regarde les cantiques qui ont une cinquantaine d'années, et puis ceux qu'on chante aujourd'hui, qu'est-ce que ça vieillit vite. Oh là là, à toute allure. Quels sont aujourd'hui les cantiques qu'on chante encore et qu'on chantait il y a 50 ans? C'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça transite très très vite. Ça s'use, il y a une usure. Et pourtant, on peut dire qu'après Vatican II, il y a vraiment un effort théologique dans les paroles. Vraiment, c'est moins pompier, si vous voulez, que ce qu'on racontait avant. Et surtout, c'est théologiquement plus fort, plus fondé. Mais ça n'a pas forcément bien pris. Bon, il y a le problème de la musique aussi qui va avec. Et on n'a pas toujours trouvé les poètes ou les musiciens capables de faire ce double travail. Il y a une usure extraordinaire des cantiques. On va y revenir tout à l'heure à propos de la liturgie. Bon. Tout ça pour vous dire que ce que je chante aujourd'hui après Vatican II n'est pas tout à fait ce que je chantais avant. Eh bien, de même, dans le psautier, vous allez trouver par exemple une image de Dieu extrêmement guerrier, qui tue tout le monde, et qui est violent. Seigneur, tue-les tous, que leurs femmes deviennent veuves, que leurs enfants soient orphelins, et fracasse la tête de leurs petits contre le roc. Bon, là déjà, petit problème par rapport au Nouveau Testament. Vous allez me dire, dites donc, c'est pas très chrétien ce truc-là, on nous fait encore chanter ça dans les églises. Bon. Paul VI, d'ailleurs, mon avis un peu, je suis pas très d'accord avec ça, mais enfin bon, à vous de voir. Mais vous savez que dans le psautier, ceux qui récitent les heures, vous avez des crochets pour indiquer les versets qu'il ne faut pas chanter. Parce que c'est pas chrétien, quoi. Bon. Personnellement, je crois qu'il vaut mieux les chanter. Premièrement, ça vous fait du bien. C'est autant de moins que vous direz à votre prochain à la maison ou dans votre communauté. Hein, ça défoule un peu. Seigneur, quand vous vous faites agresser par quelqu'un dans votre communauté ou dans votre maison, au lieu d'agresser celui qui vous a agressé, vous allez agresser Dieu pour lui dire « Allez, tu ferais bien de t'en occuper, toi, etc. » Bon, donc, on peut sortir les griffes. Alors, Paul VI a fait enlever ça pour dire « Vous vous rendez compte, si jamais des gens extérieurs écoutent ça, ils vont se demander qu'est-ce qu'on raconte, enfin, que tout ça, c'est très très loin de l'Évangile. » Ah, mais je suis d'accord avec lui, là, c'est très loin de l'Évangile. Hein. Mais justement, à force de chanter ça, et de me constater qu'en moi, il y a quand même ces forces de mort. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé une fois, plusieurs fois dans ma vie, de me faire agresser. Ma première réaction n'a pas été, je vous le confesse malheureusement, n'a pas été de dire « Seigneur, pardonne-leur ». Mais si j'avais eu sous le coude ce qu'il fallait pour répondre à l'attaque, j'aurais cogné. Vous voyez, donc, une violence, qui d'ailleurs est complètement inconsciente, qui tout d'un coup remonte à la surface, et qui nous surprend même de ce qui arrive. Et je crois que les psaumes, justement, évoquent ce qui se passe en nous, dans la réalité, et surtout nous mettent sur la voie de dire « Mais je voudrais bien, moi, pardonner à mes ennemis comme le Christ a pardonné sur la croix, et entrer dans une logique d'amour. J'y suis invité, et le psautier vient me rappeler que non, il y a encore de la pesanteur qui m'entraîne vers les bas-fonds de ce que je suis et vers la violence humaine. En parenthèse, vous trouvez qu'il y a trop de violence dans les psaumes, il n'y en a pas beaucoup plus devant le petit écran de télé que vous regardez de temps en temps pour voir les infos. Hein. On vient encore d'avoir des scènes un peu horribles, assassinat de deux otages, bon, ça c'est courant là-dedans, hein. Pas de problème de ce côté-là. Hein. En plus de ça, c'est Dieu qui commande de faire le boulot. Bon, alors là, on est un petit peu gêné. Hein. C'est-à-dire que quand il leur dit d'entrer en terre promise, vous les tuerez tous, vous n'en laisserez aucun subsister. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui commande des choses pareilles? Bon. Alors, tout ça pour vous montrer que sur 1000 ans, ils ont eu le temps d'évoluer quand même, hein, vers un Dieu d'amour. Mais enfin, ça a été très très lent. Également sur le rapport aux nations, qui est un rapport très très important, le rapport aux nations dans l'Ancien Testament, les nations sont plutôt des ennemis d'Israël, et progressivement dans les psaumes, ils vont devenir non pas des amis, mais l'instrument de Dieu. C'est-à-dire que les nations sont invitées également au salut, et participent au salut. Donc il y a toute une théologie des nations qui passe un petit peu, si vous voulez, du combat, ou qu'il faut exterminer, un concept de nation qui, au contraire, est ceux qui sont associés au dessein de Dieu et qui vont, en quelque sorte, faire partie de ce peuple de Dieu que deviendra l'Église. Mais voilà, déjà dans les psaumes, il y a déjà ce mouvement. Donc sur la violence, sur Dieu, sur les nations, sur beaucoup d'autres thèmes, on constate une évolution. Et comme les psaumes se juxtaposent les uns les autres, ben, on a l'impression qu'on a trouvé un truc extraordinaire dans un psaume, puis dans celui d'à côté, il y a des trucs absolument imbuvables. Hein. Donc du coup, on est un petit peu gêné de se dire, enfin, de même un psaume que vous aimez sûrement beaucoup, enfin, qui est souvent proposé en méditation. « Mon Dieu, tu me sondes et tu me connais, que je me couche ou que je m'assois, tu le sais, tu connais toutes mes pensées et tout ça. » Bon, ça on dit, voilà, le type est en... pleinement reposé en Dieu. Bon, et à la fin de sa méditation, j'espère qu'elle ne se termine pas comme ça, vos méditations, vos contemplations, « Seigneur, si tu voulais tuer l'impie, etc., vous, homme de sang, éloignez-vous de moi. » Le type n'est pas du tout pacifié en sortant de son oraison. Alors ça, c'est intéressant de voir qu'effectivement, dans l'Ancien Testament, il y a, comme on disait dans le temps, quand on faisait des dissertations sur Racine et Corneille, hein, on disait que Corneille dépeignait les gens tels qu'ils devraient être, et Racine tels qu'ils sont. Ben, je peux vous dire que les psaumes dépeignent plutôt les gens tels qu'ils sont plutôt que tels qu'ils devraient être. Hein. Tels qu'ils devraient être, ce serait plutôt dans le Lévitique, vous voyez. Hein. Mais tels qu'ils sont, c'est vraiment avec toute la violence qu'il y a. Bien, alors une fois que j'ai dit ça, l'ensemble de l'Ancien Testament qui se retrouve dans le psautier, c'est vrai. Et ça a un avantage énorme, c'est qu'on peut commencer une initiation à la Bible par les psaumes, ce qu'on a fait pendant un certain temps avec les novices jésuites. Le premier livre qu'ils ouvraient, c'était les psaumes. Mais on peut aussi terminer sa formation théologique par les psaumes, puisqu'ils contiennent tout le reste. Et donc, je vais retrouver tout le reste. Alors, entre les deux, évidemment, au début, quand vous ne connaissez pas du tout la Bible, vous découvrez la Bible à travers les psaumes. Quand vous connaissez assez bien votre Bible, toute la Bible se reflète comme dans une goutte d'eau, si vous voulez. Dans un psaume, vous voyez toute la richesse qu'il peut y avoir dans un certain nombre de textes, dont le psautier est l'évocation, le reflet ou la condensation. Il y a une sorte de condensation dans chaque psaume de perles qui sont prises comme ça dans l'ensemble de l'Ancien Testament. Voilà pour la première partie. Deuxième partie, les psaumes, langage privilégié du Nouveau Testament. Pour les téléphones, vous n'oubliez pas de les rallumer à la fin du cours. Hein, au cas où vous auriez eu envie de les éteindre. Alors ça, c'est un problème très intéressant. Que le psautier a été en quelque sorte la matrice de la christologie du Nouveau Testament. Et je voudrais vous montrer ça de manière un peu détaillée. Le Nouveau Testament se réfère à l'Ancien, soit en le citant, soit en reprenant ses schèmes de pensée, et je dirais que cela se fait à travers différents procédés. Mais dont le plus facile à repérer, c'est évidemment les citations. Hein, c'est-à-dire que le psautier va citer un texte. Le procédé de la citation de l'Ancien Testament dans le Nouveau revient 360 fois. 360 fois, si vous voulez, le Nouveau Testament cite l'Ancien, soit en l'annonçant, on dit comme il est écrit dans tel livre, ou comme dit un tel. Donc, le procédé de citation revient. Mais, comme les mêmes textes sont cités plusieurs fois, cela ne renvoie qu'à 265 textes, c'est-à-dire une centaine de moins. Donc, en gros, 360 effets de citation, mais qui, en fin de compte, ne citent que 265 passages. La citation peut varier entre trois mots, et 4 ou 5 versets, hein, 3 mots ou 4 ou 5 versets, mais suffisamment typique, même s'il n'y a que 3 mots, pour qu'il n'y ait pas trop d'hésitation à y repérer un psaume ou une citation d'un autre texte. Les résultats qu'on obtient sont les suivants. Le Pentateuque est cité 157 fois. Pentateuch, c'est quand même le gros morceau de la Bible hébraïque et c'est le texte majeur pour les Juifs. Les prophètes, 115 fois. Les psaumes, 79 fois. Et autres écrits, 9 fois, ce qui fait 360. Maintenant, si je regarde le nombre de textes cités, sur les 157 du Pentateuch, ça ne renvoie que à 109 passages. Donc, il y a une légère baisse. Chez les prophètes, sur 115 citations, il y en a 91 textes. Ça veut dire qu'ils sont cités plusieurs fois, c'est ça que ça veut dire. Hein. Ils peuvent être cités par Matthieu, par Luc, par Marc, par Paul. Donc, ça diminue les textes. Pour les psaumes, 79 cas de citation, qui renvoient à 58 psaumes. 58 psaumes. 58 passages de psaumes. Et pour les autres écrits, 9, et qui renvoient à 7 passages. On peut donc conclure de cette petite statistique, très facile à faire, que le quart des citations du Nouveau Testament, le quart des citations du Nouveau Testament qui renvoient à l'Ancien, provient du psautier. Le quart des citations, c'est énorme comme poids. Alors que le livre des psaumes ne représente que 6% de l'Ancien Testament hébreu. Donc 6% c'est tout petit, et 25% au contraire de citations. Donc il y a manifestement le psautier est un recueil qu'on cite volontiers. Pourquoi le psautier est-il autant cité dans le Nouveau Testament ? Le plus souvent, on donne comme solution que le psautier est un livre qu'on connaît par cœur. Or, qu'il s'agisse des Juifs contemporains du Nouveau Testament ou même d'un certain nombre de pères de l'Église, c'est toute la Bible qu'ils connaissent par cœur. Même aujourd'hui, vous avez des Juifs qui connaissent par cœur leur Bible. Ceux que vous voyez là au mur des Lamentations avec un chapeau noir, des roumflaquettes et puis... ou des chapeaux beaucoup plus solennels les jours de fête, eux, ils savent par cœur leur Bible. Et donc, le psautier, ils le savent par cœur, comme ils savent par cœur la Torah. Ce qui est difficile quand on fait des congrès de Bible avec des Juifs, c'est que nous, on dit Isaïe 54, verset 3, pour qu'on puisse y aller, quoi. Tandis qu'eux, ils disent, comme il est écrit, Bereshit, machin, puis pof, il donne en hébreu la citation, mais va voir où elle est. Donc, ils la savent par cœur. Donc, on est un peu, c'est pas un bon argument de dire qu'ils connaissaient par cœur le psautier, ils connaissent tout le reste. On affirme aussi souvent que le psautier est le livre le plus beau et le plus dense théologiquement. Je serai assez d'accord, c'est vrai, c'est ce que je viens de vous démontrer, il les récapitule bien l'Ancien Testament. Et donc il y a une part de vérité là-dedans, mais c'est plutôt a posteriori, et ça indique davantage le comment, mais ça ne dit pas pourquoi on s'est si souvent référé au psautier. La réponse que je ferai, c'est que si le psautier est autant sollicité par les auteurs chrétiens, le Nouveau Testament et les pères de l'Église, qui auront sensiblement la même statistique, c'est que le psautier était considéré comme un résumé de l'Ancien Testament, ce que je viens d'essayer de vous montrer, qui rassemblait en quelques poèmes la richesse de l'expérience multiforme d'Israël. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une densité d'expérience, il y a une densité de théologie là-dedans, beaucoup plus grande qu'il ne peut y avoir dans d'autres textes. Mais cette réponse ne suffit pas. Je crois qu'il faut ajouter quelque chose qui a été déterminant, c'est le caractère poétique du livre. C'est qu'on peut dire en gros que le deuxième Isaïe est poétique, que le livre de la Genèse, par certains côtés, Genèse 1, est un poème, je suis d'accord. Mais quand même, l'ensemble du psautier, lui, est foncièrement poétique, c'est-à-dire c'est vraiment de la poésie. D'ailleurs, le système de détection d'accentuation de l'hébreu n'est pas le même pour les psaumes que pour le reste de la Bible. On voit bien que là, les textes poétiques... Job est poétique aussi, mais Job, c'est du narratif aussi. Il y a des dialogues. Tandis que là, ça se présente un peu comme des poèmes. On ne dit pas qui le dit, ou quelquefois il y a quelque chose qui dit ce texte, je vais en reparler tout à l'heure. Mais dans la plupart des cas, le texte se présente comme ça, sans signature, sans date, sans auteur, personne, on ne sait pas d'où il vient, ni de quelle date. Mais c'est un texte poétique. Or, l'avantage du texte poétique, si vous voulez, par rapport au texte prosaïque, c'est qu'il permet une espèce d'interprétation à l'infini. C'est-à-dire qu'un poème n'est jamais épuisé. Bon, je vous montrerai ça techniquement sur un certain nombre de textes. Mais si je vous fais voir un film par définition, s'il est bien fait, sera poétique, eh bien, bien sûr, on va tous se raconter l'histoire en disant voilà ce que ça raconte. Mais au-delà de l'histoire, si c'est vraiment un bon film, quelle est au fond toute la symbolique qui est derrière ce film, nous ne serons pas d'accord entre nous. Et justement, c'est la richesse d'un texte poétique de se donner dans une pluralité de significations possibles en fonction en particulier de l'histoire personnelle de chacun. Et il est clair, si vous voulez, que quelqu'un qui est un homme ne va pas lire de la même façon qu'une femme certains textes. Il y a des résonances qui vont davantage vibrer chez l'un ou chez l'autre en fonction de son sexe, en fonction de son histoire, éventuellement en fonction de son métier, si je puis dire. Je me souviens, un jour, on avait pris comme texte l'histoire du bon samaritain, et il y avait dans le groupe surtout des gens du personnel hospitalier. Et d'habitude, quand on parle de la parabole du bon samaritain, tout le monde flèche sur le bon samaritain, hein, qui lui a ramassé le blessé, etc. Puis on voue aux gémonies le lévite, le prêtre, etc. Bon. Personne ne parle de l'hôtelier. Or, dans ce groupe de gens hospitaliers, eux, ils ont dit, mais il y a un personnage vachement important dans la parabole là, du bon samaritain, c'est l'hôtelier, c'est-à-dire que lui, il prodigue des soins avec compétence et il se fait payer en plus, ce qui est notre cas. Il est peut-être syndiqué par surcroît. Bon, mais je veux dire, l'hôtelier, pour eux, parce que eux étaient dans la fonction de l'hôtelier, si je puis dire, de donner des soins pour de l'argent, puisqu'on dit si c'est pas assez, je reviendrai te donner le supplément. Hein. Et parce que la charité, c'est très bien de ramasser un blessé, mais il y a une technique et puis il y a tout un... Disons, il faut ce qu'il faut pour le guérir, et l'hôtelier accomplit cette fonction. Ben, les hospitaliers se sont retrouvés un petit peu dans ce personnage. Et c'est ce jour-là que j'ai découvert l'importance de l'hôtelier dans la parabole. Moi-même, je n'étais pas sensible, évidemment. Je crois qu'il faut avoir vécu certaines expériences, si vous voulez, pour comprendre certains textes. À quelqu'un qui n'a jamais su ce qu'était l'amour, ou d'être aimé par un autre, aura du mal à comprendre ce que dit la Bible sur l'amour. Évidemment, quand on va vous dire que Dieu est père, si vous n'avez pas eu de père, ou si vous avez eu un père qui n'en était pas un, eh bien, évidemment, vous aurez une difficulté à entrer dans ce concept. De même, moi, je ne comprendrai jamais ce que c'est que d'être père. Bon, vous me direz, il y a des analogies, d'accord, mais quand vous avez un enfant... Il y a un émerveillement chez ceux chez qui ça arrive, et après ça, ils vont dire le Notre Père tout à fait autrement qu'ils ne le disaient avant. L'expérience, en quelque sorte, enrichit un texte qui peut se charger justement de ça. Vous voyez, un texte, c'est comme un aimant qui va pouvoir attirer sur lui un certain nombre de choses qui sont très très liées au lecteur ou à celui qui entre dans le texte. Un texte n'est pas neutre. Un texte, au contraire, attirera ceux qui ont une connivence avec lui. Si vous n'avez aucune expérience de la prière, les psaumes ne vont rien vous dire. Ce sera, bon, éventuellement, ça va parler à votre intelligence, mais ça ne parlera pas là où ils veulent parler. Alors, quelle est la première manière dont on va utiliser le psautier dans le Nouveau Testament ? je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais en gros, vous allez avoir une première forme qui consistera à considérer que les choses ont été très bien dites dans le psautier et à les assimiler dans son propre langage. C'est ce que vous faites de temps en temps quand vous écrivez. Quand vous avez trouvé une phrase qui est très bien tournée, eh bien, vous allez la citer. Bon, le seul problème qu'on demande ici aux étudiants, c'est de mettre des guillemets. Bon. Ah non, parce qu'on trouve quelquefois des devoirs entiers qui ont été piqués dans des bouquins ou sur Internet, et il n'y a pas de guillemets. Alors on dit, attends, mais c'est vraiment bien de toi, c'est un imparfait du subjonctif, comme ça, au milieu d'une prose qui est quand même balbutiante, vous voyez. Alors mettez des guillemets. Voilà, bon. Mais eux, ils ne mettent pas de guillemets, justement, dans la Bible. Hein. On cite comme ça, c'est très bien dit, alors pourquoi ne pas faire comme eux. Si vous prenez le Magnificat ou le Benedictus hein, de Luc, vous apercevez qu'il ne s'est pas cassé la tête, il a fait un copier-coller. Il ne dit pas où il a piqué ça, mais moi je peux vous le dire. Hein. Il n'a pas mis de deal, mais bon. De même, si vous voulez, généralement, il y a certaines phrases qu'on va citer parce qu'elles font image et elles foutent le feu à l'imaginaire. Il y a des phrases qui ont été dites par des grands hommes ou qui n'ont pas été dites. Hein. Mais d'une certaine façon, en les répétant, je réinstaure le climat ou le contexte dans lequel la phrase a été dite, même si je l'ai dit dans un contexte complètement différent. Par exemple, quand Churchill disait pendant la guerre « Je vous promets du sang et des larmes hein, »,« Blood and tears », bon, alors, faites ça en anglais, effectivement, ça, on voit que ça a du poids. Quand De Gaulle a dit à Alger, je vous ai compris, bon, ben, je vous ai compris, on sait ce que ça veut dire maintenant. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, c'est probablement un temps fini, comme on dit, c'est-à-dire ça n'a pas duré. Hein. Bon. Donc, il y a des phrases comme ça qui évoquent des tas de choses. Hein, parce que elles mettent un peu le feu à l'imaginaire. Bon, par exemple, parler de mon serviteur David ou appeler Jésus fils de David, tout de suite, ça. C'est vrai qu'on restaure tout un pan d'histoire qu'on avait tendance à oublier. Donc, ça joue beaucoup avec les noms propres. Ça donnait vous donnez des prénoms à vos enfants ou aux petits-enfants. Bon, on ne choisit pas n'importe quel prénom. Hein. On donne un prénom qui a déjà été porté, on donne un prénom qui est en vogue, ou d'une actrice en vogue, hein, pour les filles. Manuel n'ont pas fleuri n'importe quand, ni les... Alors, deuxième forme, là, ça va se compliquer, c'est la christologisation du psautier. La troisième, la suite, ce sera la reprise par l'Église du psautier. Mais ici, c'est la christologisation, c'est-à-dire que le Christ va être la clé d'interprétation des psaumes. Et là, vous ne vous rendez pas compte de la difficulté devant laquelle se trouvaient les évangélistes ou les disciples. On ne mesure pas ça. Toute expérience que nous faisons, si bouleversante soit-elle, ou si banale, est toujours singulière. C'est-à-dire que toute expérience est singulière. Par exemple, vous venez m'annoncer que vous avez perdu votre maman, votre papa, un frère, une sœur. Bon. Vous venez m'annoncer que vous voulez vous marier. Ma première réaction pourrait dire, vous dites donc, c'est des faits divers, là, que vous me racontez, perdre sa mère, son père, c'est normal, hein. Bon, se marier... Aujourd'hui, c'est plus rare, mais enfin, c'est quand même un acte qui arrive à beaucoup de gens. Si je fais ça, je passe à côté de ce qui fait la singularité de l'événement pour la personne. C'est-à-dire que, généralement, ce qui arrive à quelqu'un est unique et absolument singulier. C'est-à-dire que la mort de votre maman, de votre papa, d'un ami, etc., bien, tout dépend de votre affectivité, tout dépend de cette relation que vous aviez avec lui. Et je n'ai pas, en quelque sorte, à la généraliser et faire que, et surtout pas, ce qu'on fait la plupart du temps, de dire, bah, vous savez, moi je vous comprends, il m'est arrivé le même truc l'an dernier, hein, perdu mes parents. Il n'y a qu'un seul cas où vous ne pouvez pas faire le coup, hein, de dire à quelqu'un, comme je vous comprends, il m'est arrivé la même chose, c'est comme quelqu'un est en train de mourir, vous ne pouvez pas lui dire, il m'est arrivé la même chose l'an dernier. Hein. Et donc là, on est coincé, qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, on se tait ou on se sauve. Hein. On ne supporte pas justement la violence d'une annonce comme celle-là. Mais en gros, quelle que soit l'expérience que nous vivons, il y en a d'autres déjà qui l'ont vécu de manière analogique. Et il existe un langage pour en parler. C'est-à-dire, j'ai des mots. Hein, perdre un ami, même si je m'aperçois, je suis frappé de ça avec les fiancés quand ils font leur déclaration d'intention. Ils disent tous, ben oui, mais les mots correspondent pas exactement à ce qu'on veut dire, c'est pas tout à fait ça. Ben c'est vrai qu'aucun mot ne convient à mon expérience, mais les mots sont un standard dont tout le monde se sert et qui permet de communiquer. S'il n'y avait pas de mots communs, on ne pourrait pas communiquer entre nous. Or, pour les évangélistes, le problème est complètement différent de nous. C'est que l'expérience qui leur est arrivée dans leur rencontre avec le Christ et surtout dans sa mort et sa résurrection n'a aucun précédent. C'est-à-dire que cette chose-là n'est jamais arrivée dans l'histoire. Et en quelque sorte, il n'y a pas de langage pour en parler. Vous avez affaire à un homme qui dit avoir une relation tout à fait spécifique avec Dieu. Il dit qu'il est son fils, il dit qu'il est en proximité avec Dieu. Et ça, je dirais que ça n'était jamais arrivé que quelqu'un soit sorti de la mort. Bon. Alors, comment parler de ça? Bien, les disciples avaient plusieurs choix pour s'en sortir. Le premier, à expérience nouvelle, langage nouveau, on invente des mots. On invente des mots. Ou on prend des mots dans un sens qui ne sont pas leur usage courant. Par exemple, dans le Nouveau Testament, le mot « agapé », qui signifie l'amour, qui malgré tout est très utilisé dans le monde grec à l'époque de Jésus, va prendre un sens très précis dans le Nouveau Testament et qui va généralement désigner l'amour que Dieu a pour le Christ, ou l'amour du Christ pour l'humanité, ou l'amour que nous nous portons les uns les autres, par rapport à l'éros, qui est plutôt un amour sexué, ben et qui inclut la jouissance, ou par rapport à la philia, l'amitié. C'est très bien dit tout ça dans l'encyclique de pape Benoît XVI, hein, sur Deus Caritas Est, il montre bien que l'amour que nous avons, il fait appel aux trois mots. Hein. Il y a toujours un peu de l'éros dans une relation, homme-femme, même si c'est absolument pur, mais il y a de l'éros, c'est une femme, moi je suis un homme. Bon. Il y a de la philia, et la philia est une très belle vertu chez les Grecs. Hein. C'est la vertu par excellence de... L'amitié, c'est quelque chose de rare. On n'a pas 36 amis. Hein. C'est celui à qui on va confier ce qu'on est. Bon. Et puis l'agapé, alors là, c'est encore autre chose. C'est l'amour que Dieu met en nous et qui nous rend capables d'aimer, etc. Et qu'il a mis dans son Fils. Alors, ils ont créé quelques mots. Bon. Mais enfin, on ne peut pas indéfiniment créer un vocabulaire, sinon ça devient une secte. C'est complètement ésotérique. La deuxième solution aurait consisté à emprunter beaucoup au schéma contemporain ou aux mots contemporains, ce qui était en vogue, si vous voulez. Alors là, ils l'ont fait, par exemple, et ça vous frappe pas beaucoup parce que vous y êtes trop habitué, mais le mot de dire que Jésus est ressuscité, la résurrection, est un schéma relativement récent sur le marché, hein, puisque jusque l'an 200 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire vers 190, on ne croyait pas à une vie après la mort. Or, pour parler de ce qui est arrivé à Jésus après la mort, on va utiliser des schèmes de pensée, mais le plus en vogue à l'époque du Christ, c'est pas le schème de l'ascension, c'est-à-dire d'être en bas et de monter au ciel, qui est un schème qui est un peu plus ancien par certains côtés, mais le schème très courant à l'époque, c'est il était mort, il s'est mis debout. Hein, en hébreu, comme en grec, le mot ressuscité signifie tout simplement se mettre debout alors qu'on est allongé. Anistémie, ou bien koum en hébreu, hein, se mettre debout. Si Jésus était venu 200 ans plus tôt, vous n'auriez aucun récit de résurrection dans le Nouveau Testament. Ça va? Ça fait un petit coup comme ça, parce que vous n'avez pas entendu ça. On va dire ça dans les églises trop fort quand même. Bon. Mais en gros, c'est vrai. C'est-à-dire que le concept n'existe pas. Donc, on aurait parlé autrement. Mais le Nouveau Testament a à peu près une dizaine de schémas pour parler de ce qui s'est passé à Jésus après sa mort. Donc, on n'était pas en panne. Et Paul n'en abuse pas. Il va plutôt utiliser d'autres schémas que celui de la mort et de la résurrection. Troisième possibilité, et c'est ce qui a été choisi par les auteurs du Nouveau Testament, ça va être tout simplement de s'approprier le langage de l'Ancien Testament, de le faire sien pour exprimer la radicale nouveauté de l'Évangile et surtout son enracinement culturel. Jésus s'inscrit dans une tradition qui le précède et qui est la tradition juive. Vous savez qu'il y a eu un combat extrêmement violent au deuxième siècle, fin premier siècle, deuxième siècle, c'est revenu continuellement après dans l'Église, qui a été une expérience que vous avez probablement faite, de constater l'énorme écart qu'il peut y avoir entre l'Ancien Testament et le Nouveau, en particulier dans l'image de Dieu, ce que Marcion, un auteur du deuxième siècle, considère comme le Dieu de la colère, opposé au Dieu d'amour du Nouveau Testament. Et il ne peut pas accepter, en quelque sorte, que Dieu soit, ce soit le même Dieu, quoi. Donc, il vire l'Ancien Testament et il finit aussi par virer presque tout le Nouveau. Il ne va garder que Saint Luc à partir du chapitre 4 et puis quelques éléments de Saint Paul. Mais je dirais que l'Église a toujours combattu cette tendance-là. Et elle a tenu absolument à s'approprier l'Ancien Testament comme faisant partie, en quelque sorte, de son patrimoine et qui allait lui donner, et en particulier à travers les psaumes, le langage de son expérience complètement inédite. Je donne 10 minutes de pause. Voilà, nous reprenons. Donc, j'ai introduit tout à l'heure la double lecture que va faire l'Église primitive, c'est-à-dire le Nouveau Testament, et qui sera prolongée par les pères de l'Église, d'une double lecture, mais qui va se démultiplier, des psaumes, c'est-à-dire d'un côté, c'est le Christ qui va dire les psaumes, hein, il s'approprie les psaumes, je vais développer ça, et d'un autre côté, au contraire, c'est l'Église ou un membre de l'Église qui s'approprie le psaume, mais c'est une christianisation des psaumes dans les deux cas. Saint Justin, qui est un auteur des années 160 après Jésus-Christ, qui est probablement peut-être un ancien rabbin, il insiste là-dessus pour montrer, d'ailleurs Augustin va systématiser ça, tantôt les psaumes sont le Christ qui parle à Dieu, tantôt les psaumes c'est l'Église qui parle à Dieu ou au Christ. Donc, chaque fois que vous avez « je » dans les psaumes, chaque fois que vous trouvez « je », vous pouvez dire… Alors, généralement, « je » en hébreu, ça se dit « ani » ou « anori », mais vous avez un mot qui revient très souvent, mais qui ne veut pas du tout dire ce que ça veut dire en français, mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face ? Il ne s'agit pas de l'âme. Hein. Ça veut dire je, c'est ma vie, c'est mon... Mais ce n'est pas l'âme au sens où vous l'entendez dans le monde grec. Donc le jeu des psaumes va être mis sur les lèvres du Christ par les évangélistes, et ce procédé-là revient une trentaine de fois dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire 30 fois dans le Nouveau Testament, le Christ dit « je » à partir d'un verset de psaume. Exemple, dans Matthieu 7, 23, « Alors je leur déclarerai, alors voilà c'est un psaume, « Je ne vous ai jamais connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est tiré d'un psaume, ça. Ou bien, et pourtant, il va dire que c'est dit par un prophète, mais en fait c'est dit dans le psautier, en 13:35, « Afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète, j'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles, je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. » C'est encore un psaume qu'il cite. Vous voyez, ça revient une trentaine de fois. Hein, le Christ, au fond, parle le langage des psaumes, se les approprie en disant « c'est de moi qu'il s'agit ». Le plus célèbre, évidemment, étant ce que vous connaissez bien, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Hein, ça, c'est étonnant que le Christ ait pu dire cette phrase-là, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette exégèse sera reprise par les pères de l'Église et elle jouera un rôle important dans ce qu'on appelle l'exégèse typologique, c'est-à-dire qu'un personnage de l'Ancien Testament préfigure ce que le Christ va déployer en quelque sorte. L'Ancien Testament est une figure ou un type. Et l'antitype, ce sera le Christ qui, lui, accomplit ce qui est dit. Tertullien, qui est un auteur du second siècle, dans une discussion sur la Trinité, il dit ceci, « Presque tous les psaumes parlent au nom du Christ, partout le Fils s'y entretient avec le Père, c'est-à-dire le Christ avec Dieu. Presque tous les psaumes, c'est la conversation du Christ avec son Père. » Alors moi, j'avais cru que le « presque », c'était la difficulté quand même à mettre sur les lèvres du Christ certaines paroles. Non, c'est qu'il y a des psaumes qui ne parlent pas, il n'y a pas de jeu, hein, il n'y a pas de personnage, donc je comprends tout à fait qu'on ne puisse pas les appliquer au Christ. En revanche, chez Augustin, il y a des choses qui ne se permettent pas de faire dire au Christ pour des tas de raisons. Mais ce n'est pas les psaumes où il est question des ennemis, tu les tous, etc. Parce que ça ne gêne pas du tout les pères de l'Église. Ça. Ils vont appliquer ça aux démons ou aux forces maléfiques. Donc là, il n'y a pas de problème. À partir du moment où les autres deviennent le démon, on peut dire n'importe quoi. Hein. Donc, ce n'est pas forcément... Le procédé est relativement simple, je dirais, dans sa présentation, et il est très développé dans les Actes des Apôtres, dans le discours de Pierre le jour de la Pentecôte, hein, le fonctionnement, si vous voulez, de la citation ou de la référence au psaume. Dans le discours après la Pentecôte, Pierre va prendre la parole, hein, dans Acte 2, et cité assez longuement, puisqu'il cite quatre versets en entier, selon le texte grec, mais il va surtout s'appuyer sur le verset 10, qui en grec peut se traduire de la manière suivante, « Car tu n'abandonneras pas mon âme à l'Hadès, tu ne donneras pas ou tu ne permettras pas que ton fidèle voie la corruption. » Bien. Pierre, dans un premier temps, cite le texte en entier, bon, sans commentaire, et même sans préciser le sens du texte. Ce que les rabbins, au contraire, font dans le Midrash, je vous expliquerai ce que c'est qu'un Midrash, c'est un commentaire biblique juif. Par exemple, en hébreu, il y a « Tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol, tu ne laisseras pas ton fidèle voir la fosse. Alors les rabbins disent, la première partie du verset signifie « dans la tombe, sa chair ne sera pas réduite en poussière » et dans la deuxième partie, la fosse, cet homme ne sentira même pas l'odeur de la géhenne quand il sera dans le tombeau. Hein, voilà donc un commentaire qui précise le sens. Pour Pierre, comme pour les Juifs, ça va de soi que ce texte-là veut dire tout simplement que celui qui est aimé de Dieu ou qui est fidèle à Dieu ne peut pas connaître la corruption. Hein, vous voyez, le grec a mis corruption là où il y avait fausse en hébreu, parce qu'en hébreu, la fausse est vraiment synonyme de corruption. Mais il faut décrypter ça. Et immédiatement, s'appuyant sur le verset 10, il dit, vous êtes bien d'accord que l'auteur du psaume, c'est David. Tous les psaumes sont écrits par David, la plupart. Et il leur dit, vous êtes bien d'accord également que David parle de lui-même, de son propre sort. Bien, mesdames et messieurs, on a une difficulté si on tient ces propos, dit saint Pierre ou saint Paul. Frères, il est permis de vous dire avec assurance, c'est du luxe, hein, le patriarche David est mort, et bien mort, puisque son tombeau se trouve aujourd'hui au milieu de nous. On sait où est le tombeau de David à Jérusalem. On peut encore le voir maintenant, mais il a changé de place. Enfin, il va montrer que David, comme prophète, avait annoncé par avance, dans ce psaume, qui est une prophétie, la résurrection de l'un de ses descendants, le Christ. Et il cite à nouveau, « Mais il était prophète, David, et savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sur son trône quelqu'un de sa descendance issu de ses reins. Il a donc d'avance prévu ou vu la résurrection du Christ, et c'est à son propos qu'il a dit, il n'a pas abandonné au séjour des morts, et sa chair n'a pas connu la corruption. Et il démontre ça. Enfin, si vous voulez, ayant bien fondé que la résurrection est annoncée par ce psaume, il montre que non seulement ça prédit la résurrection du Christ, mais il va enchaîner sur le psaume 110, c'est-à-dire l'exaltation à la droite de Dieu du Christ, que nous appelons l'ascension, si vous voulez. Hein, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, et ça, c'est à partir du psaume 110 qui va faire la démonstration, et non pas, mais il va enchaîner le psaume 16 et le psaume 110. Donc, vous voyez, c'est très simple. Hein, les disciples ou les évangélistes se battent avec les Juifs pour dire... Toute écriture doit s'accomplir, nous sommes d'accord là-dessus, mais tous vos candidats sont mauvais. Nous, on en a un qui est le bon, qui s'appelle le Christ. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors les Juifs vont dire, mais d'accord, mais tu prends un texte qui va trop dans ton sens, j'aimerais mieux que tu prennes les miens. Bon, alors les rabbins arrivent avec leur texte, et puis par exemple saint Justin va se débrouiller avec les textes que les Juifs lui amènent, parce qu'il y a une pluralité de textes bibliques à l'époque, hein, c'est pas comme vous, vous avez une pluralité de Bibles qui traduisent pas pareil les choses, ben, à l'époque c'est un peu la même chose. Donc voilà. Alors, deuxième procédé, toujours à propos du Christ, le « il » des psaumes, c'est-à-dire où la chose, ou la réalité, ou le personnage, c'est le Christ. Par exemple, il est la pierre rejetée des bâtisseurs. Alors ça revient 4-5 fois dans le Nouveau Testament. Il est la pierre rejetée des bâtisseurs. Il est l'agneau pascal. Ah, vous me direz, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher les psaumes pour dire ça. Ben oui, mais saint Jean, lorsqu'il parle en disant que, en effet, tout ceci est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture, pas un de ces os ne sera brisé, ce que précise bien le Lévitique, en fin de compte, il cite le psaume 34, il veille sur tous ses os, pas un seul ne sera brisé. C'est-à-dire qu'en fait, il cite quelquefois les prophètes ou le Pentateuque, mais à travers le psautier. On voit bien que le psautier est la matrice, il sert à ça. Bon, le Christ est le soleil, il est l'époux, enfin bref, il peut assumer un peu tous les rôles. Il est aussi le berger, si vous voulez. Deuxième façon de s'approprier le psautier par l'Église, c'est l'Église qui va dire « je », et chaque fois qu'il y a « je », c'est l'Église qui parle, et elle va s'adresser au Père. C'est-à-dire ça va devenir, au fond, la prière du peuple. Et le « tu » va être Dieu le Père, jusqu'au moment où le « tu » va devenir le Christ. C'est-à-dire qu'on va s'adresser au Christ comme à Dieu. Je ne sais pas qui vous priez quand vous priez, si c'est le Père ou le Fils, mais en principe, véritable destinataire de la prière est quand même Dieu, le Père. D'ailleurs, les oraisons sont assez bien faites. Hein. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles, par Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a quelques oraisons qui s'adressent au Christ, toi qui vis et règne avec le Père pour les siècles des siècles. Bon. Mais on adresse en général les oraisons à Dieu et le Christ, c'est par qui la chose va passer. Eh bien, dans le Nouveau Testament, chaque fois que vous allez avoir « je », ce sera quelqu'un de la communauté qui le dit, et chaque fois que vous allez avoir « Yahvé », ou le « tu » qui représente Yahvé, donc le nom même de Dieu, on va remplacer Yahvé par son équivalent grec, puisque en grec on n'a pas traduit Yahvé par Yahvé, on l'a traduit par « Seigneur ». Et comme Jésus est Seigneur, on s'adresse au Christ comme s'il était Dieu, hein, comme s'il était Yahvé. En fait, le petit tour de passe-passe, alors j'en viens au dernier chapitre, qui est la question donc de du psautier comme école de prière. Qu'est-ce que c'est que prier ? Question un peu redoutable. Bon, disons que prier, c'est au moins parler avec Dieu et laisser Dieu parler éventuellement. Non, mais c'est un dialogue quand même. Mais la plupart des gens parlent à Dieu, mais Dieu n'a pas le temps de parler. Hein. Bon. C'est comme en communauté, j'ai des frères, avant même qu'ils aient eu la réponse à la question qu'ils avaient posée, on en a déjà posé une seconde. Ça prouve que la réponse ne les intéresse pas. Mais on est un peu comme ça avec Dieu dans la prière, c'est-à-dire on lui cause, il y a plein d'ennuis, ma fille ça va pas bien, les affaires. On n'arrête pas de lui parler, mais c'est aussi fait peut-être pour écouter. Hein. Donc la prière est un dialogue, peut-être plus qu'une adresse. Donc prier c'est s'adresser à Dieu, mais petit problème, c'est pourquoi ? Pourquoi avons-nous besoin d'un livre pour prier ? Je veux dire, la prière, normalement, ça doit sortir spontanément du cœur et on n'a peut-être pas besoin de formulaire pour prier, vous voyez ? Hein ? C'est-à-dire qu'au fond, le psautier se présente un peu comme du prêt-à-porter en vous disant, vous ne savez pas quoi dire dans la prière, ben voilà, vous allez dire ça. Très bien. Donc, le psautier est présenté un petit peu comme un modèle de prière qu'on va utiliser et qu'on va réciter. Bon, ça va vous donner des gens qui récitent les psaumes. Très bien. Mais il y a un texte très intéressant de Dietrich Bonhoeffer. Ça vous dit quelque chose, Dietrich Bonhoeffer, hein ? C'est un Allemand, théologien, qui aurait certainement été un grand théologien allemand, mais il est mort très très jeune, pendu par les Allemands parce qu'il a fait partie du complot contre Hitler dans le fameux attentat de 1944. Il a été pris dans le complot et il a été donc mis en prison, où il a beaucoup écrit d'ailleurs pendant... Il écrivait beaucoup à sa fiancée ou à sa femme en prison. Et il a écrit un petit livre sur les psaumes, qui est un petit chef-d'œuvre. en français. Ça s'appelle « Bible, ma prière ». Le titre est pas bon, mais vous pouvez lire ça, c'est vraiment excellent. Et voici ce qu'il dit dans ce petit livre. « C'est une erreur dangereuse, aujourd'hui très répandue chez les chrétiens, de croire que l'homme pourrait prier naturellement, c'est-à-dire que la prière soit quelque chose de naturel. Ce serait confondre le désir, l'espoir, le soupir, la plainte, la jubilation, bref, ce dont tout notre cœur est capable par lui-même, ce serait confondre tout cela avec la prière. Ce serait confondre la terre et le ciel, l'homme et Dieu. Non, prier ce n'est pas seulement épancher son cœur, c'est qu'on ait le cœur comblé ou vide, trouver la voie qui mène à Dieu et dialoguer avec lui. Nul n'en est capable de soi-même. » Alors il développe après que c'est par le Christ que nous sommes capables de cela. Mais il va un petit peu plus loin et il dit, on dit que la Bible est la parole de Dieu. Il y a des choses dans la Bible qui ne sont pas parole de Dieu. Le Cantique des Cantiques, c'est un dialogue entre deux amoureux. Est assez hard, hein, quand vous lisez. Ouais, bon. Parole de Dieu, non, c'est un homme et une femme qui se causent. Coëlette parle pas de Dieu, lui, parle de ses problèmes. Il dit, bon, j'arrive au bout de ma vie, finalement, j'ai accumulé de la richesse à la banque, etc. Et tout ça, ça va aller à un incapable une fois que je serai mort. Bon. Et on mettra rien dans mon cercueil. Bon. Coëlette, parole d'homme. Job, parole d'homme. Les psaumes, la plupart du temps, parole d'homme. Et Bonhoeffer a cette magnifique formule, il dit « Si la Bible est la parole de Dieu, c'est qu'elle contient à la fois... » Alors, il y a un jeu de mots en allemand qu'on ne peut pas faire en français, un petit peu en anglais, mais pas en allemand, mais pas en français. « Si la Bible est la parole de Dieu, c'est qu'elle contient à la fois la parole que Dieu nous adresse, la Wort Gottes, et la réponse que l'homme fait à cette parole de Dieu. Antwortes. Hein, Antwortmanes. Bon, en anglais, word answer, c'est pas si mal que ça, mais en français, parole réponse, ça marche plus. Hein. En gros, si vous voulez, la parole de Dieu, c'est pas simplement la parole que Dieu nous adresse, c'est la réponse que je fais. Et la Bible contient à la fois la parole adressée à et la réponse de l'homme s'adressant à Dieu. C'est important. C'est pour ça que le psautier est un livre qui justement contient la prière. On pourrait dire par certains côtés que les psaumes vont devenir un peu, non pas un prêt-à-porter de formules que je vais réciter, mais contiennent en quelque sorte les règles de grammaire de la prière. C'est-à-dire quand si on vous fait réciter les psaumes, c'est pas pour en réciter le mot à mot. C'est pour que progressivement, en parlant cette langue, votre propre langage à vous, quand vous vous adressez à Dieu, soit informé, soit en quelque sorte structuré avec cette grammaire de la prière qui est dans le psautier. C'est pour ça qu'on récite les psaumes, pour formater en quelque sorte notre propre prière. Alors, comment est faite cette prière biblique? Je vais développer ça de manière assez rapide, et puis je pense qu'on aura le temps d'arriver 5 minutes avant la fin. Je vais faire un petit tableau. Vous allez retrouver à peu près la plainte telle que je l'ai décrite. Seigneur, je n'en peux plus. Mon corps n'a plus de larmes. Mes yeux sont desséchés, je ne vois plus où je marche. Pourtant, tu le sais, je suivais avec joie tes sentiers entourés de la gerbe de mes fils et de mes filles. J'aimais à te louer dans ta maison au milieu de mes frères assemblés. Et soudain, les soldats sont venus. Ils ont brûlé la maison et l'enfant et sa mère endormis. Mes autres fils, tes enfants que tu m'avais donnés, étaient à l'école, les innocents. Les camions sont venus, au ravin ils les ont menés. Des bêtes sauvages à visage humain se sont jetées sur eux, au coupe-coupe ils les ont dépecés, leurs membres sont restés accrochés au buisson des rochers, leurs corps mutilés, anonymes, flottent vers la mer. Seigneur, je n'en peux plus, je ne peux plus supporter ma douleur, venge-moi de mes ennemis, détruis-les, livre-les aux hyènes. Que leurs entrailles sur la place du village soient répandues, dévorées par les chiens, que les vautours arrachent leurs yeux, que leurs os rongés ne trouvent pas de sépulture, que leurs âmes errantes à la surface de la terre. Seigneur, je n'en peux plus, mes yeux sont encore remplis d'horreur, je ne sais plus ce que je dis, mais toi, tu comprends ma douleur. Hélas, la vengeance ne me rendra pas mes enfants, ni leur mère, ni le petit dernier, celui-là sans défense, mais ces meurtriers de mes enfants, ce sont tes enfants, eux aussi, et pour eux aussi tu as donné ton fils, je le sais, mais je ne peux leur pardonner, ils m'ont fait trop mal. Aussi, Seigneur, comprends-moi, je suis encore prisonnier de ma haine, sois patient avec moi, reçois ma douleur et ma plainte, c'est tout ce que j'ai à t'offrir, je sais que tu me comprends, toi qui vis ton fils mourir sur la croix, toi, mon père. Voilà ce qu'on est capable de faire, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Mais on arrive à des choses comme ça, vous voyez, à fréquenter les psaumes, à condition non pas d'être rivé au mot à mot du texte, mais à se laisser imprégner par la grammaire même de la prière, que j'ai essayé de vous résumer ici en quelques règles extrêmement simples ou simplifiées. On va les complexifier au fur et à mesure. Vous voyez un peu le fonctionnement. Alors, pendant la minute qui reste, je voudrais vous dire ce qu'on va faire la prochaine fois. On va attaquer un psaume, hein, après cette introduction, puis on reviendra sur les questions techniques de poétique. Alors, la fiche que je vais vous donner à travailler, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout ce qui est écrit dedans, ni même si vous ne pouvez pas faire tout le travail qui est demandé. Ce n'est pas un travail que je vous demande, simplement que avant le cours, vous ayez déjà un peu fréquenté le psaume dont on va parler. Et j'ai donc fait cette fiche de manière extrêmement didactique pour vous aider justement à vous repérer comment travailler un psaume. Ce sera le 114. Hein. Vous lirez, parce que ça je ne veux pas m'attarder là-dessus pendant le cours, vous lirez l'introduction au psaume dans vos Bibles qui vous expliqueront les histoires de numérotation de psaume et tout ça, plutôt que moi je me lance là-dedans dans un développement, bon ça n'a pas d'intérêt, mais sachez qu'il y a toujours un décalage entre la liturgie et la Bible, parce que dans la liturgie, on prend la numérotation de la Septante, c'est-à-dire des Grecs, et de la Vulgate, c'est-à-dire la traduction latine, alors que dans la Bible, on prend la version de l'hébreu. Il y a des psaumes qui sont coupés en deux, il y a deux psaumes qui sont rassemblés en un seul, et ce qui fait qu'il y a un décalage toujours d'un ou deux psaumes. Alors, il y a une fiche donc, de travail qui fait 5 pages, et puis il y a des documents qui peuvent vous aider à travailler. En particulier, je vous ai mis le texte hébreu avec en dessous la traduction française pour que vous voyez au moins l'ordre des mots, hein, même si vous ne lisez pas l'hébreu. Alors, il y a 4 fiches de travail.
d'aller plus loin.